Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver à 23h31 sur Europe 1 pour cette semaine de Libre Antenne, avant-dernière semaine, avant l'été qui s'approche à grands pas, puisque nous sommes aujourd'hui le 21 juin et que c'est l'été, chers amis, pour celles et ceux qui avaient oublié. Premier jour donc de l'été et premier jour d'été en Libre Antenne. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Je vous rappelle juste un petit truc, c'est que jeudi, nous commencerons la Libre Antenne à 22h30. Donc voilà, cette semaine, horaires normaux, simplement jeudi, autrement demain, après-demain. Nous serons là à 23h30 après l'excellente émission du service des sports d'Europe 1 et de Lionel Rousseau. Le foot, l'euro, parce que la France, vous le savez, joue mercredi, ça s'approche à grands pas. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon week-end et puis un bon début de semaine. Et puis sans plus tarder, vous le savez, vous pouvez appeler dès maintenant le 39-21 si vous avez envie de nous parler de vous, de votre quotidien, de vos projections pour le futur, ou peut-être d'une épreuve passée dont vous avez tiré un enseignement, dont vous voulez faire profiter cette communauté de la Libre Antenne. Et puis vous pouvez nous écrire toujours au 739-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, et puis en laissant votre numéro de téléphone et en indiquant que vous voulez intervenir tout de suite, peut-être que nous aurons le plaisir d'échanger ensemble ce soir. Voilà, 39-21, 50 centimes d'euros la minute, vous pouvez appeler Natacha et Florian dès maintenant qui sont avec Fred dans la régie et qui attendent vos appels. Votre Libre Antenne du lundi, c'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Léonie au 39-21. Bonsoir Léonie.
Bonsoir Olivier.
Alors Léonie, nous avions échangé jeudi dernier. Et puis, le temps qui court et qui nous a rattrapés. Ceci dit, nous n'avions pas beaucoup de temps, hein, Léonie. Nous avions eu à peine 7 ou 8 minutes pour vous entendre. Alors, ce que je vous propose, parce qu'il y avait, à mon avis, plein d'auditeurs et d'auditrices qui n'étaient pas là ce soir-là, je vais vous laisser résumer ce qu'on s'est dit déjà jeudi dernier. D'accord ?
D'accord, je vais essayer de résumer tout ça.
Faites comme vous pouvez, allez. Ne vous mettez pas la pression, même si c'est un grand résumé, on y va.
Ouais,
on vous écoute.
D'accord. Alors, en fait, j'appelais pour parler de mon histoire que je vis en ce moment, qui est quand même assez difficile à vivre, car mes enfants ont été placés chez leur papa. Je suis dans le Jura et leur papa est dans la région parisienne et je ne les vois plus que 2 heures par mois. En fait, il y a environ 2 ans, j'ai fait appel à de l'aide car je me sentais dépassée par l'éducation de mes enfants. Je manque pas mal d'autorité, de fermeté, donc j'ai manqué de leur donner un cadre qui pouvait les sécuriser. Donc, du coup, j'avais des personnes qui venaient à mon domicile pour m'aider un petit peu. Et puis, depuis environ 1 an, il y a une éducatrice qui venait à raison d'une fois par mois à peu près. Et encore avec le Covid, pas tant que ça. Et puis, cette personne a voulu faire un signalement.
Elle venait une fois par mois, en fait, suite à votre demande d'aide. Elle a été missionnée pour vous aider ou pour observer cette dame ?
Pour m'aider, on va dire. Observer, d'accord, certainement aussi, mais bon. Et puis, en fait, les premiers contacts avec cette éducatrice, avec le recul, ont quand même été un peu spéciaux, je trouve.
C'est-à-dire ?
Parce que, par exemple, la première fois que je la rencontre avec les enfants, Elle me dit, est-ce que je peux vous poser une question? Je lui dis oui. Alors, ça peut paraître des détails, mais avec le recul, je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre. Mais bon, elle me dit, c'est normal que vous ayez deux boucles d'oreilles différentes? Bah, je lui dis, des fois, j'en perds, donc j'en mets une petite et une grande. Voilà. Et les enfants étaient à côté, ils étaient en train de jouer, puis donc, elle va vers eux, elle dit, les garçons, vous avez vu, votre maman, elle a deux boucles d'oreilles différentes.
Oulala.
Eux, ils n'avaient pas spécialement remarqué.
Ça ne partait pas terrible, hein, là.
Bah non, pas terrible. Ben, sur le coup, moi, j'en fais pas forcément de cas, c'est toujours après. Et puis, une semaine après, ben, elle vient à la maison pour la première fois, elle m'appelle, elle me dit, j'aurai du retard, pas de souci, je travaillais pas ce jour-là. Du coup, elle frappe et j'étais en train de plier du linge. Et j'ai juste fini de plier mon sweat. Et puis, mon grand, qui avait 6 ans à l'époque, 6 ans et demi, il dit, maman, je vais ouvrir. Bah, je dis, vas-y, je le suivais dans la foulée de toute façon. Et donc, il ouvre la porte. Et là, elle me dit, vous m'avez fait attendre. Et j'ai pas mis une minute, j'ai mis 30 secondes. Enfin, voilà. Et en plus, je suis pas quelqu'un qui ait beaucoup de réparties. Mm-hmm. C'est souvent après, je me dis, ah oui, enfin, voilà. Donc, moi, on me prend comme ça, on me dit des choses comme ça. Je sais même pas quoi répondre.
Comment vous vous décririez, justement, quand vous me dites, je suis quelqu'un qui n'a pas trop de réparties. Vous diriez quoi? Que vous êtes timide? Que vous êtes un peu introverti? Ou que...
À la base, je suis quelqu'un. Enfin, j'étais quelqu'un de très très timide étant enfant. Maintenant, un peu moins. Donc, du coup, et pas forcément très réactive. Et du coup, pas beaucoup de réparties et pas beaucoup de défense non plus parce que j'ai eu d'autres soucis avec des voisins et j'ai pas su me défendre comme il aurait fallu. Mm-hmm. Du coup, étant donné que j'ai pas su me défendre, j'ai pas su protéger non plus mes enfants. Je pense comme il aurait fallu aussi. Donc voilà, et là quand elle me dit ça, je lui dis, bah, écoutez, excusez-moi, enfin voilà. Et après elle me dit, est-ce que c'est normal qu'un enfant de 6 ans ouvre la porte? Je lui dis, écoutez, on vous attendait, donc, et puis bon, on est en campagne, enfin bon, puis de toute façon, je suivais mon fils quasiment. Donc voilà, et en fait, avec le recul, je me dis, mais toutes ces phrases-là comme ça, ça m'a plus déstabilisée qu'autre chose en fait. Et c'était le tout début, et je me suis dit, mais finalement... je comprends pas ces gens-là qui font des formations d'éducateurs spécialisés. Ils sont censés nous aider. On leur demande de l'aide. Ils sont censés nous aider.
Bah, d'emblée, en fait, cette dame, dans ce qui était sa mission, elle aurait dû déjà faire le nécessaire pour vous mettre à l'aise, déjà, pour vous donner confiance. Vous voyez, pour lier quelque chose de solide entre vous et elle. Je dis de la confiance parce que c'est sur la confiance que tout repose dans toute relation. S'il y a de la confiance, on peut échanger normalement, on peut beaucoup plus se dire de choses et on peut construire mieux quand on se fait confiance. Mm-hmm. À partir du moment où vous, je suppose, Léonie, je suppose que si vous vous faites cueillir, parce que c'est le mot, comme ça, d'emblée, vous avez deux boucles d'oreilles différentes. Déjà, ça, c'est une remarque qui porte sur votre physique. Ça a à voir avec l'éducation de vos enfants?
Mais c'est ça, on est d'accord.
Et en plus, après, se retourner vers les enfants pour leur faire remarquer ça.
Elle le fait remarquer aux enfants.
C'est pour ça que je vous dis qu'elle vous a accueilli d'emblée et que ça partait mal. Ça partait mal, cette histoire. Bon, mais bon.
C'est vrai.
Donc, 30 secondes de retard, c'est pas bien, hein?
Ah oui.
Je rigole, hein. Je rigole.
Non, mais oui.
Bon, et donc, c'est votre petit qui ouvre, mais vous êtes derrière. Vous arrivez derrière.
Mais oui, j'arrivais derrière, évidemment. Donc, enfin, voilà. Et ça nous prend un peu comme ça, au vif. Moi, j'ai pas toujours ce répondant pour me défendre, entre guillemets, pour me justifier, quoi, finalement. Donc, voilà, ça, c'est parti un peu bizarrement, déjà, je trouve.
D'accord.
Et puis, quand elle a fait le rapport pour faire ce fameux signalement, le papa en a profité. Il a fait une demande de résidence principale, mais encore, il aurait fait cette demande en me disant, bah, Léonie, je sens que tu es en difficulté, j'ai envie de t'aider, fais-moi, enfin, voilà, c'était pas vraiment ça. Dans la demande qu'il a faite, c'était plutôt que je me suis pas occupée de mes enfants pendant le confinement, mes enfants étaient livrés à eux-mêmes. Mes enfants, mon compagnon était maltraitant envers mes enfants étaient effrayés par mon compagnon, enfin, que des choses très sympathiques comme ça à mon égard. Alors que, comme je vous avais dit la dernière fois, oui, je reconnais, j'ai eu des difficultés pour élever mes enfants, j'ai manqué d'autorité. Effectivement, je me dis, bah, j'ai pas été de maman, j'ai pas toujours su m'y prendre, mais par contre, je m'en suis toujours occupée de mes enfants. Et quand je vois que mes enfants étaient livrés à eux-mêmes, vraiment, là, je me dis, mais c'est pas juste ce qui marque. Parce que déjà, il a pas de preuves, pour commencer, mais c'est surtout que c'est pas vrai. J'ai jamais laissé mes enfants livrés à eux-mêmes. Je m'en suis occupée, peut-être pas comme il aurait fallu, comme mais je m'en suis toujours occupée.
Alors jeudi dernier, il me semble que vous avez donné des exemples de ce pourquoi oui. Vous aviez eu besoin d'aide. Rappelez-nous pourquoi avec l'un de vos deux garçons il y avait une histoire de d'Opinel ou de
c'est... Voilà, et ben en fait parce que j'ai mes voisins très sympathiques aussi, un couple de 60 ans sans enfants. Les murs étaient très mal isolés. Et puis bon, donc ils ont voulu faire une pétition parce que c'est vrai que c'est vrai que étant pas très autoritaire, bah du coup j'ai eu donné des fessées à mes enfants. Enfin après c'est pas ça qu'ils m'ont reproché, eux, c'est plutôt les cris. Donc voilà. Et du coup ils ont fait une pétition. Et puis ils ont vu mon fils jouer avec un couteau à un moment donné pendant le confinement. Alors, bien sûr, je tiens à préciser que c'était un couteau à bourron et qu'en plus, lui, ce qu'il aimait, c'était gratter du bois. On se baladait beaucoup dans les bois. Alors, je ne banalise pas, hein, c'est pas du tout ce que je cherche à faire, mais je justifie le pourquoi, voilà. Et bien sûr, quand j'ai vu ça, bah, j'ai dit à mon fils, non, tu dois pas prendre un couteau sans me le dire, tu dois pas jouer comme ça sans...
Qu'est-ce qu'il faisait exactement avec son couteau?
Eh ben, il ramenait beaucoup de bois, de morceaux de bois.
Il y a pas mort, enfin,
quel âge a-t-il? Non, même quand j'en ai parlé à mon avocat, il m'a dit, mon avocat, il dit, il y a plein d'enfants, surtout à
vous notre voyez, moi, par exemple, j'ai passé mon enfance dans un milieu agricole. Mon enfance et ma jeunesse, hein, mon adolescence. On est tout petit, on faisait des arcs, on faisait des cabanes, et on avait. C'était même nos grands-parents qui nous prenaient un couteau pour aller en forêt. Avec nos cordes et c'était des couteaux à bourron bien évidemment mais qui coupaient très bien et
oui.
Voilà quand on a des enfants qui jouent comme ça avec du bois avec qui vont vraiment faire de ce couteau en tout cas en avoir cette utilité il y a pas mort d'homme encore une fois si ses voisins avait vu votre fils courir après l'un de ses petits copains brandissant un couteau, même s'il avait été à bourron, je comprends que ça aurait pu les alerter. Mais enfin, là, si c'est un enfant qui ramène du bois et qui taille du bois, faut aller chercher loin. Enfin,
Mais oui, c'est voilà. Ils ont...
Mais vous avez dit quelque chose qui m'a par contre un peu heurté. C'est quoi cette histoire de fessée, en fait?
Eh ben, par exemple, je sais pas comment dire. Mon enfant, le grand, surtout quand je discutais avec des mamans d'école, il aimait bien monter dans les voitures des mamans. Sauf qu'à un moment donné, je dis allez, tu descends d'ici. Et en fait, je pouvais lui dire 10 fois descends d'ici, gentiment, ouais. Fermement. Il descendait jamais. Et en fait, et au bout d'un moment, je le tirais par le bras, je lui dis allez, ça suffit, maintenant tu descends. Bon, puis au bout d'un moment, quand ça fait plusieurs fois et que notre enfant ne nous écoute pas, effectivement, à la fin, je donnais des fessées, enfin voilà, parce que c'était pour moi, enfin, et pourtant je suis contre, hein, mais c'était à un moment donné, entre guillemets, la seule solution pour qu'il m'écoute enfin. Voilà, et je suis pas fière de moi, hein, mais voilà. Et donc, ça, évidemment, quand j'en parle à l'éducatrice, en plus, j'en parlais ouvertement à l'éducatrice, j'ai été très transparente, mais de nos jours, bien sûr, c'est interdit.
Attendez, on va remettre les choses à leur place. Bien évidemment, on va pas vanter les mérites d'une fessée ce soir, hein, j'ai jamais mis une claque aux fesses à ma fille. Bon, elle est plutôt sage, mais, j'ai vu des parents mettre une claque aux fesses à des gamins qui ne voulaient pas obéir entre une claque aux fesses pour les vexer hein, pour voyez.
Oui.
Mais alors là, je sens que ça va hurler, hein, ça va faire hurler certaines chapelles. Je parle souvent de chapelle hein, sur cette antenne aujourd'hui. Mm-hmm. On ne peut plus dire mademoiselle, vous le savez. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pas bien de dire mademoiselle. Ou voilà, c'est comme ces profs qui aujourd'hui ne peuvent plus rien dire aux élèves. Vous voyez, on est dans le tout répréhensible. Donc, à un moment, attraper vivement un gamin qui veut pas. Ça fait 10 fois qu'on lui dit de sortir d'une voiture. Eh ben, je peux vous dire que je croise les regards de mon équipe ce soir et je vois dans les regards une approbation certaine. Il faut être un peu ferme aussi dans l'éducation de faut qu'un enfant y comprenne. Alors sans lui mettre une volée, hein, parce que j'ai vu des copains à moi quand j'avais 7-8 ans hein, avec des parents qui les tapaient, qui leur mettaient des fessées, vous voyez, ce qu'on appelait des volées à l'époque.
Oui, des volées,
j'ai connu l'époque des martinets, moi. Je me rappelle des martinets. Et c'était en vente dans toutes les bonnes drogueries, les martinets. C'était pas pour les chiens ou les chats, c'était pour les enfants.
Non, c'était pour les enfants, oui.
Donc voilà, c'est bien que cette époque-là soit révolue, mais après, on peut être ferme avec un enfant, et surtout si, comme votre fils, il n'obéissait pas, bon, ça, voilà, à un moment, c'est pas...
Mais c'est ça, c'est qu'à la base, je ne suis pas pour les fêter.
Excusez-moi, Léonie, c'est vrai qu'il faut que je marque une petite pause, donc on va la faire maintenant, excusez-moi,
d'accord.
Et puis on continue à parler de ça, d'accord ?
Ok,
à tout de suite. Marche.
D'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne Venir.
Il est 23h48 sur Europe 1. Vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez, vous le savez, composer le 3921 ou nous écrire au 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Léonie. Léonie, j'entends des grandes respirations. Ça va ? Tout va bien ?
Oui, ça va.
D'accord. Bon, très bien.
Je suis un peu stressée, mais ça va.
D'accord. Bon, voilà, débat sur la fessée clos. En fait, on vous a accusé quoi ? De les battre, vos enfants ?
Le papa m'a accusé de maltraitance, que j'étais violente physiquement et verbalement envers les enfants. L'éducatrice, elle, pas spécialement, mais le papa, oui. Voilà. Bien sûr, enfin voilà. Après, je le redis, c'était vraiment quand je voyais qu'il n'écoutait pas du tout que j'en venais au fessé. C'était pas ni pour le plaisir, je ne m'en vantais pas. Enfin, c'est parce que je trouvais pas d'autre solution pour me faire écouter en fait. Et voilà.
D'accord.
Et
puis, vous étiez à court de solutions.
À court de solutions.
Parce que je viens de recevoir un SMS un peu énigmatique de Marie qui me dit qu'il ne faut pas confondre transparence et authenticité, qu'on doit adapter ses propos à ses interlocuteurs. Léonie semble avoir besoin d'être accompagnée par une thérapeute. Pardonnez-moi Marie, mais je ne saisis absolument pas le sens de votre message. Donc développez s'il vous plaît, parce que je ne le comprends pas. En fait, je pense que Léonie a demandé de l'aide à un moment parce qu'elle ne s'en sortait plus avec ses enfants, qui n'obéissaient pas notamment. Léonie, je ne sais pas...
Oui. C'était surtout avec... Alors, ils ont 2 ans d'écart, mes garçons, et c'est vrai que c'était surtout avec mon grand où c'était compliqué.
Est-ce que vous aviez donc besoin d'une aide type éducateur ou d'une thérapeute, comme Marie semble nous le dire ?
Alors, ça, bah, du coup, éducateur surtout. Après, je reconnais justement, et ça m'a été reproché aussi, et je suis d'accord, hein, que j'étais fragile. Donc, mais d'ailleurs, j'avais déjà pris des rendez-vous en CMP, Centre Médico-Psychologique.
Oui. Pour vous faire accompagner,
les enfants,
vous
faisait, moi et avec les enfants au départ.
Avec les
on
enfants,
faisait une petite
d'accord.
thérapie familiale. Et puis après, j'ai continué un petit peu toute seule. Donc c'était des thérapeutes dans un CMP pour enfants.
Est-ce que ça vous a fait du bien ? Est-ce que vous avez senti ?
Ah oui, et je continue d'y aller et ça me fait toujours du bien. Ces deux personnes qui sont thérapeutes, alors ils ne sont pas psychologues, ça me l'a été reproché, que je n'allais pas voir des psychologues mais des thérapeutes. Mais ils ont quand même fait 3 ans d'années d'études en plus de leur... elles sont infirmières de formation, elles ont fait 3 ans d'études en plus pour être thérapeute familiale.
Non mais là où Marie nous écrit au 739-21, elle a raison donc de dire que vous aviez besoin d'être d'être accompagnée
oui,
par une thérapeute.
Tout à fait, mais moi je reconnais que j'ai des fragilités, que j'ai des hauts, des bas, que ça a été dit dans le rapport de l'éducatrice, et je ne dis pas non, hein. Je suis une personne fragile. Après, c'est là où je me dis, oui, ok, je suis une personne fragile, mais est-ce que c'est une raison pour enlever complètement des enfants à leur maman? Parce que je me dis, je ne pense pas être la seule maman fragile sur cette terre, je ne pense pas être la seule maman à avoir besoin d'aide. Je peux comprendre que mes enfants aient été placés chez leur papa pendant un temps donné, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu épuisée, je n'avais pas toujours les bonnes solutions. Après, de là à ne les voir que 2 heures par mois, c'est là où la question se pose quand même. Parce que moi, je suis sortie du tribunal anéantie. Ils sont partis le soir même de l'audience, sans dire au revoir aux copains d'école, ni aux cousins, cousines, ni aux grands-parents. Je me dis, 2 heures par mois, est-ce vraiment mérité?
Alors, attendez, parce qu'on a été un petit peu vite,
je pense. Ah oui, je suis très un peu vite.
Parce que on est passé vite de l'accompagnement, du signalement de cette éducatrice, donc, votre accompagnement avec vos enfants, puis vous qui voyez des thérapeutes, mais comment, à un moment, vous êtes à nouveau amené, suite à ce signalement, vous êtes à nouveau convoqué, je suppose, devant la justice familiale?
Alors, au départ, c'était le juge des affaires familiales, oui, parce qu'en fait, le papa ne m'a jamais donné de pension. Il y a quelques années, je lui avais demandé une pension comme ça, simplement à l'amiable. Il m'a dit non, tu as des aides. J'ai dit ok. Après, c'est vrai qu'au début, j'étais gênée de lui demander une pension parce qu'il payait les billets de train. C'est lui qui venait chercher les enfants et c'est lui qui les emmenait et c'est lui qui les ramenait, qui repartait. Donc voilà, je me dis c'est vrai que voilà. Après, les dames qui m'accompagnaient parfois me disaient mais ça, c'est son problème. Il est aussi censé vous donner une pension. Donc, du coup, j'ai jamais fait le pas complètement pour demander une pension. Donc, du coup, je suis passée devant le juge des affaires familiales pour demander ça. Mais ça s'est tout fait dans la précipitation, en fait. Il a fait un dossier en référé, le papa, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, c'est passé en urgence, en fait. Et vu qu'il m'a accusée de maltraitance, du coup, c'est passé en urgence. Et dans la même semaine, j'ai fait le juge des enfants, en fait. Enfin, je suis passée devant le juge des enfants.
D'accord. Ah. Et donc, a été prononcée la garde au papa suite à ce passage?
Voilà.
D'accord.
C'est ça.
D'accord. Oui. Vous les aviez combien de temps exactement, là, avant ça? C'est vous qui les aviez...
Oui, en fait, ils allaient chez leur papa que pendant les vacances scolaires, étant donné l'éloignement.
D'accord.
La moitié des vacances, environ.
D'accord. Donc, avouez que c'est un peu radical comme,
comme
décision. Voilà. Vous passez donc d'une garde pratiquement pleine à plus que 2 heures par mois.
C'est ça.
Et ces 2 heures par mois sous surveillance, si je comprends bien, en fait, ces deux heures.
Bien entendu. Au début, sous surveillance, en visite médiatisée, ils appellent ça. Donc, je me sentais vraiment comme une criminelle. Je me suis dit, mais parce qu'en plus, j'ai quelques personnes éducatrices autour de moi qui me disaient que même des parents qui ont fait des attouchements sur leurs enfants ou de la vraie maltraitance, ils peuvent parfois voir leurs enfants le week-end. Et ça, c'est une vérité. Même les thérapeutes m'ont dit qu'elles étaient quand même subjuguées de la décision. Et 2 heures par mois, c'est quand même très compliqué. C'est très... Voilà. On se sent... moi, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être une criminelle, quoi. Et puis, en plus, on est surveillé. Bon, ça, voilà.
Oui, mais c'est terrible, cette décision. Vous l'attribuez à quoi, Léonie, cette décision ce signalement, il a dû être sacrément arrosé. Il a dû dénoncer des choses. Elle a dû bien vous charger, cette éducatrice, quand même.
Oui, l'éducatrice, elle a. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est comme s'ils avaient fait équipe, elle et le papa. Enfin, après, voilà, c'est mes impressions à moi, mon ressenti. Par exemple, dans le rapport qu'elle a fait au juge, elle marque à un moment donné, elle écrit à un moment donné que monsieur dit que la communication avec madame est impossible. Ok, pourquoi pas, hein. Sauf que moi, plusieurs fois, j'ai dit à l'éducatrice que c'était compliqué de communiquer avec le papa. À aucun moment, elle le marque sur le rapport, quoi. Donc, c'est là où je me dis, mais pourquoi on marque ce que lui, il dit, et que moi, ça, à aucun moment, ça n'a été noté. Donc, c'est plein de petites choses comme ça. En fait, moi, je pense que la justice l'a beaucoup aidé, le papa. Après, je suis pas là pour dénigrer le papa, c'est pas mon but, hein. C'est juste pour raconter des faits qui se passent, qui se sont passés. Et parce que moi, j'aurais pensé avoir un petit peu de soutien de la part du papa, des encouragements, de me dire « allez, tu vas y arriver ». Mais bon, c'était pas ça, en fait. Il était capable de me dire au téléphone « tu es folle ». Tu es folle. Enfin, voilà,
C'était pas la parfaite entente entre vous, quand même. Donc,
c'était
terrible.
Après, voilà, j'ai eu une situation compliquée dès le départ. Comme, je sais plus si je vous avais dit que voilà, j'ai eu deux enfants avec un homme marié que j'ai rencontré au Sénégal.
Ah non, vous ne m'avez pas raconté ça. C'était donc les enfants de cet homme-là, c'est ça?
Voilà, enfin, mes enfants, je les ai eus avec cet homme
qui était marié,
en fait.
D'accord.
Voilà. Le deuxième, on a essayé de vivre ensemble 3 mois, ça n'a pas fonctionné. C'est là qu'on a conçu le deuxième. Après, il ne voulait pas que je le garde. Moi, j'ai désiré le garder. Et puis, du coup, il l'a reconnu à 2 ans et demi. Parce que je me suis permise d'appeler sa compagne pour lui dire qu'il avait un deuxième enfant de moi, parce qu'elle savait qu'il avait un deuxième enfant, mais elle ne pensait pas qu'il était de moi. Et je me suis dit, là, je peux plus tenir, il faut qu'elle sache, parce qu'en fait, mon grand, il allait chez son papa depuis l'âge d'environ 2 ans. Et mon grand faisait des... Il nommait son prénom et il nommait le deuxième prénom de son petit frère. Et d'accord. Il nommait mon nom de famille à moi.
Bon,
en fait,
tout cas,
c'est comme s'il envoyait des messages.
Bon, en tout cas, c'est pas... On ne va pas dire que c'était un cadre idyllique pour l'éducation des enfants
et
pour que les enfants... se repère comme il faut. On va marquer une nouvelle pause, si vous le voulez bien, et puis on va conclure après cette pause, d'accord ? À tout de suite.
D'accord. Salut.
Europe 1, il est minuit. Et vous êtes toujours sur la libre antenne, puisque vous retrouverez l'info dans les jours qui viennent sur Europe. Deux messages pour vous, Léonie, au 739-21. D'abord, celui de D, signé de D, qui se demande pourquoi, en fait, ses enfants sont-ils placés chez ce père ? Est-ce qu'il est plus riche ? Est-ce qu'il a un pouvoir en plus de vous ? En tout cas, est-ce qu'il est mieux placé socialement que vous ? Comment vous l'analysez ? Bon, vous comprendrez que je n'y arriverai pas ce soir. Donc, quelle est votre analyse ?
Alors, lui, il est peintre en bâtiment, il travaille en intérim, et puis pas régulièrement, d'après ce que je comprends. Sa femme est kiné. Elle a une bien meilleure... paye que moi je suis aide médico-psychologique, donc à deux ils ont bien des meilleurs revenus que moi.
Vous êtes,
après,
pardonnez-moi, vous êtes quoi?
Aide médico-psychologique.
D'accord, très bien.
Je travaille avec des personnes handicapées.
D'accord.
Et puis ils n'ont pas pu avoir d'enfants ensemble. Lui il a 50 ans, elle devrait avoir environ 55 ans. En analysant la chose, c'est comme ma famille avait l'impression qu'on volait mes enfants un petit peu, eux n'ayant pas pu en avoir ensemble.
Et puis j'ai un autre SMS de Rose qui nous dit qu'elle travaille à la PJJ, donc Protection Judiciaire de la Jeunesse, que c'est le juge des enfants qui décide, hein, dans le cas qui vous...
Oui.
Dans votre cas, et il devait avoir de sacrées billes, votre ex, pour prendre une telle décision. Elle demande qu'a fait votre avocat dans cette affaire ? Comment vous a-t-il défendu ? Parce que c'est vrai que, je vous le disais tout à l'heure, une décision aussi radicale, c'est-à-dire passer d'une garde pratiquement complète à 2 heures de surveillance, on a dû vous mettre beaucoup de choses sur la tête quand même.
Oui, il y a eu cette pétition des voisins, je pense qu'il n'a pas fait du bien. parce qu'ils ont dit de ces choses. Il y a eu le papa, qui, je pense qu'ils se sont bien fait aider aussi. Ils ont pas mal d'amis, à mon avis, bien placés, je pense. Hein, j'imagine, en tout cas. L'éducatrice qui m'a plus mis la tête sous l'eau qu'aidée. Puis pour moi, c'est comme s'ils avaient fait équipe. Voilà, c'est mon ressenti encore une fois. Et puis bon, le papa m'a bien cassé, tout simplement, en fait. Hein. Mm-hmm. En fait, et puis ben moi, quand j'essaye d'apporter des vérités, quand j'essaie, enfin voilà, après donc.
On ne vous a pas trop entendu. Un peu comme Marie l'autre jour, d'ailleurs, parce que vous nous avez appelé. Parce que vous aviez entendu le témoignage de Marie. Voilà. Qu'est-ce qui aurait été pour vous le plus juste, Léonie ?
Bah, le plus juste, c'est que mes enfants, pourquoi pas, aillent chez leur papa, puisque c'était voilà, ça qu'ils demandaient. Plusieurs fois, il m'a dit, je vais les redresser. Je me suis pensé oui. Sauf que au moins, je les vois pendant les vacances. Avec la distance, je ne peux pas les voir un week-end sur deux. Ça me reviendrait trop cher financièrement. Mais au moins, les vacances scolaires. C'était parce qu'on parle depuis le début, pour l'intérêt des enfants. Dans l'intérêt des enfants, alors dans l'intérêt des enfants, ne voir leur maman que 2 heures par mois, je suis franchement, excusez-moi, mais je ne suis pas complètement convaincue que ce soit très juste pour l'intérêt des enfants de ne voir que leur maman, que 2 heures par mois leur maman. Quoi. Mmh.
C'est dans votre voix, on ne sent pas de colère, donc c'est pour ça que je m'étonne.
On va dire qu'avec le temps, je me fais beaucoup aider de magnétiseurs. Maintenant, je suis plus proche de ces personnes que des psychologues. J'ai jamais été contre les psychologues, mais bon, voilà. Et du coup, ces personnes m'ont permis de m'apaiser. Parce que justement, au début, j'étais très en colère, très triste. Et l'éducatrice de la région parisienne me disait « Arrêtez de dire que vous êtes triste ». Parce que quelquefois, j'ai dit ça. Et un jour, je lui ai dit, mais écoutez, je ne vais quand même pas vous dire que je suis joyeuse de plus vivre avec mes enfants. Je suis passée en appel début juin et les juges m'ont reproché que c'était marqué dans le rapport de l'éducatrice de Paris que j'étais envahie par mes émotions. Donc, j'ai quand même essayé de leur dire, bah, écoutez, je pense que c'est un petit peu normal d'être triste et en colère au tout début, que mes enfants soient partis. Enfin, c'est... Alors, avec le temps, voilà, j'essaie de me dire, bon, bah, parce que de toute façon, l'avocat m'a fait comprendre lui-même, il m'a dit, vous savez, dans ce monde-là de la justice, ils pensent détenir la vérité. Et ils attendent de vous, en fait, que vous disiez, oui, j'ai compris, je m'excuse, j'accepte. Et maintenant, je pense qu'il a raison, avec le temps, je me rends compte qu'il faut se taire. Quand j'ai essayé de parler un petit peu de moi, du papa qui s'était appuyé sur des mensonges à l'éducatrice, bah du coup, ça a été reproché encore dans le rapport. Ça a été marqué que j'ai dénigré le papa. Pour moi, c'est pas du dénigrer, c'est pas l'avoir dénigré, c'est avoir dit des vérités. Mais quand je m'aperçois que quand on dit des vérités, ça dérange. Parce que pour l'instant, la balle, elle est dans le camp du papa. Elle n'est pas du tout dans mon camp. Mmh. Donc, cette éducatrice a mis dans son rapport devant les juges que elle m'a reproché d'avoir emmené des huîtres pour Noël, par exemple. Alors, je pense qu'ils n'ont pas pris compte de ça, les juges. Mais c'est là où je me dis, la moindre petite chose, mis du temps à ouvrir les huîtres, parce que... Et j'en ai pas pris beaucoup, mais mes enfants adoraient ça, moi aussi. Et puis moi, je veux dire, c'est pas du tout un problème pour ouvrir une huître.
Comprends pas pourquoi vous avez reproché d'avoir amené des huîtres.
Eh bien, parce que j'ai mis trop de temps pour ouvrir les huîtres et que du coup, alors que j'avais plein d'autres choses à manger, hein, ça a mis trop de temps. Effectivement, on n'a pas eu le temps de manger le gâteau, mais en même temps, un repas de Noël, en général, ça se fait pas en une heure. Donc, j'ai trouvé. Alors, l'avocat me dit, ah, c'est vrai que
c'est très, très dur. Hein.
Non, c'est vraiment... emmener des huîtres pour Noël, bah, j'ai écouté, franchement, si j'ai emmené ça, c'est parce que mes enfants aimaient, sinon je n'aurais pas emmené d'huîtres.
Comment réagissent-ils, les petits, à cette décision?
C'est compliqué de répondre à cette question. Même l'éducatrice, un jour qu'on a eu un entretien avec le papa et les moi, enfin, au bout de plusieurs mois, je lui dis, je peux pas vous dire comment ils évoluent ou comment ils réagissent parce que on n'est jamais tout seul. Et puis, alors après, ils sont pas forcément à réclamer, mais c'est plutôt indirectement. Mon grand disait, pour Noël, tu travailles? Ben, je dis, oui, je travaille le matin. Oui, ben après, je suis sûre que tu vas aller chez papy et mamie. Ben, je lui dis, oui. Eh ben moi, j'aurais bien voulu venir. Voilà, c'est plutôt des petites phrases comme ça.
Vous les
ça,
avez au fait. Téléphone un petit peu quand même, au-delà
oui,
de ces deux heures?
Oui, je les ai au téléphone deux fois par semaine. Mm-hmm. Mais c'est pareil, les coups de téléphone, allez, on arrête dans 5 minutes, alors que des fois, ça fait un quart d'heure. Alors, je sais bien qu'un quart d'heure, ça peut être suffisant pour des enfants, mais des fois, j'ai dit au papa, tu peux me laisser les rênes de temps en temps. Je suis assez grande pour dire aux enfants, on va stopper, enfin voilà. Et puis, mais ce qui me rassure, entre guillemets, c'est que le papa a quand même dit devant l'éducatrice que c'était compliqué pour faire les devoirs du grand. Il est en CE1, qu'il faut l'appeler 10 fois pour faire ses devoirs, qu'il n'est pas toujours facile avec son frère. Et en fait, je m'aperçois que, qu'en fait, il se rend compte que même à deux, c'est difficile pour les d'élever les enfants. Mmh. Que mon enfant qui avait des difficultés un petit peu scolaires, il se rend compte que même avec lui, c'est difficile. Par contre, mes enfants, à l'école, n'avaient aucun problème de comportement. Ça aussi, je tiens à le dire, parce que ils n'étaient pas du tout turbulents à l'école. Ils étaient très polis, aucun problème avec les maîtresses. Donc, voilà. Bon, certes, c'était à la maison. Alors ça, l'éducatrice a bien su me dire, vous voyez, c'est qu'à la maison, c'est qu'avec vous. Oui, mais enfin, j'avais envie de lui dire, ok, c'est qu'avec moi. Si j'étais chez leurs grands-parents, il n'y avait pas de problème. Si c'était des copines qui gardaient mes enfants, il n'y avait pas de problème. Oui, je sais que c'est moi qui avais du mal à me faire respecter et écouter de mes enfants. Mais je me suis dit aussi que si à l'école ça se passait bien, c'est peut-être quand même qu'ils ont eu des valeurs de respect, de politesse, quand même de moi, je me dis. Enfin, voilà.
Bien évidemment, Léonie, vous pouvez être sûre de ça. C'est que si vos enfants à l'école étaient des enfants qui n'avaient aucun problème, c'est que déjà il y avait une éducation qui était à la maison. C'est prouvé que des enfants qui se comportent bien à l'école ont une bonne éducation et ont des repères de ce qui se fait de bien ou de pas bien. Donc, ces enfants, vous les avez bien éduqués, de toute façon, même si vous aviez, et vous le reconnaissez, certains manques et un peu de mal.
Oui, ça, je le reconnais.
Mais bon, c'était intéressant de vous entendre ce soir, parce que on voit, à travers votre témoignage, l'aspect violent d'une décision comme celle-là, en fait, et qui vous prive radicalement de vos enfants.
Et c'est ça.
Est-ce que, et vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que pour le bien des enfants, en tout cas, on peut se poser vraiment des questions sur une telle mesure quand il s'agit du bien des enfants et de l'équilibre des enfants? On peut vraiment se la poser, et on se la pose d'ailleurs, on peut le dire, parce qu'on est tous ici à se la poser.
C'est pour ça que je tenais quand même à faire comme dénoncer ce genre de choses, parce que je sais maintenant, j'ai compris, alors je connais peu de parents dans mon cas, mais j'ai compris maintenant qu'il y avait quand même des abus de placement d'enfants. Alors ok, ils ne sont pas en foyer les miens, ils sont chez leur papa, je suis bien d'accord. Mais si encore le papa était sympa avec moi, mais ce qui malheureusement n'est pas le cas du tout. Donc voilà, et puis voilà, je pense qu'il y a réellement des questions à se poser. Récemment, j'ai vu une vidéo d'un député de la région parisienne parler de dénoncer des placements d'enfants abusifs. Et c'est pas un parent qui dénonce ça, c'est un député. Et c'est là où je me dis, il y a réellement quand même un problème dans la justice et puis dans les aides sociales à l'enfance, où ils sont censés protéger les enfants, protéger les enfants surtout. Mais finalement, les parents, ils s'en fichent, quoi. Parce que finalement, ils coupent, c'est une rupture totale. Pour moi, c'est une rupture totale. 2 heures par mois. L'éducatrice me demandait comment je voyais mes enfants évoluer. Je dis, mais je peux pas vous répondre à cette question. Je les vois plus grandir, mes enfants. Je les vois grandir, parce que je les vois évoluer parce qu'ils grandissent, mais je peux pas vous dire comment je les vois évoluer. Donc, et là où je suis un peu rassurée, entre guillemets, c'est que le papa, il reconnaît avoir des difficultés pour les devoirs, pour se faire écouter. Et là, je me dis, finalement, c'est pas complètement de ma faute si j'arrivais pas à faire les devoirs à mon fils. Parce que finalement, le papa, il a les mêmes difficultés.
Mmh. En tout cas, vous œuvrez pour pouvoir obtenir une décision autre que celle-là, Léonie.
Alors, j'ai compris qu'il fallait que j'y aille étape par étape, parce que de toute façon, voilà. Et j'ai demandé les vacances, mais là, j'ai pas de réponse avant début juillet. Et puis, avec le temps, quand même, j'espère quand même récupérer mes enfants, parce que même que pendant les vacances, ce sera, on va dire, la prochaine étape, mais on les voit pas grandir pareil. Donc, et avec l'éloignement, c'est quand même un peu compliqué.
En tout cas, Marie vous donne un conseil et même une solution pour s'améliorer. On peut se faire aider par l'école des parents, nous dit Marie. C'est gratuit et ça vous aidera sans doute à vous positionner différemment la prochaine fois au tribunal. C'est ce que nous dit Marie, qui a l'air de bien s'y connaître, question justice enfant, justice familiale. L'école des parents, Léonie.
Ouais. C'est une association ?
Je pense que c'est une association. Si Marie a la gentillesse de nous le préciser, mais je pense que c'est une association. Oui, ça ne peut être qu'à mon avis qu'une association.
D'accord.
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 Léonie, bon courage à vous en tout cas.
Merci
pour beaucoup. Votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, comme d'habitude, vous le savez, hein, je le dis souvent, n'hésitez pas à nous tenir au courant de l'évolution de votre situation. Et puis, vous nous rappelez quand il y en a. D'accord ?
D'accord, ça marche. Merci beaucoup.
Bon courage à vous, Léonie. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est minuit 13 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne. Avez-vous été à la fête de la musique ce soir, chers amis? Vous avez vu, il y avait de la musique partout, c'est l'été, on le fête. Et puis c'est quand même sympa de voir avec l'année que nous venons de traverser, ces images partout, de partout en France, de musique. Même si les gestes barrières, bon, visiblement, ça a posé quelques problèmes ce soir, à Paris même, où il y avait de gros rassemblements. On sent en tout cas que les gens ont envie de sortir, on sent que les gens ont envie de respirer. On accueille Christine maintenant, 3921. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Christine ?
Région Centre.
Région Centre, d'accord.
Centre Val-de-Loire.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Christine ? Dites-moi.
Eh bien, j'ai voulu prendre 3 jours de vacances.
Oui.
J'avais besoin de faire un break, de souffler un peu. Et ça m'a démoli le moral, quoi. J'en suis encore un peu... Je suis encore très émue, quoi. Je suis encore très dans l'émotion. Ouais. J'ai voulu prendre 3 jours sur un camping.
Ouais.
J'ai loué un mobilo. Alors, sur le site internet, le cadre était très sympa. Il y a un lac où on peut se baigner, une rivière, ouais, une forêt.
Ouais.
Et quand je suis arrivée sur le camping, j'ai été placée dans un mobil-home qui était complètement dans un coin, encastré entre deux palissades. Et ils étaient tous collés les uns aux autres,
oui.
Les mobil-homes.
Mmh.
Et dès que je suis arrivée sur le camping, il y avait des tondeuses et des tailleux. Et ils étaient en train de faire l'entretien, en fait. Des espaces.
C'est-à-dire, pendant que vous étiez en train de vous reposer?
Même pas eu le temps de me reposer. Je suis arrivée,
oui,
l'après-midi à 14h sur le camping. Mmh. Et quand je suis arrivée, il y avait déjà ce bruit, ça tournait déjà les machines. Mais je pensais que ça allait s'arrêter et ça ne s'est pas arrêté. Ça tournait tout le temps autour de l'emplacement où j'étais. C'est insupportable le bruit, insupportable.
Est-ce que vous avez demandé aux responsables si ça allait, enfin combien de temps ça allait durer tout ça?
Ouais.
Et alors
je suis allée le voir. Il m'a dit que c'était indispensable de faire l'entretien, que si je venais pendant les vacances, ce qui était un peu mon cas, je serais ravie d'avoir un camping entretenu, que sinon je critiquerais. Et je lui dis oui, mais là je vais critiquer, je vais mettre sur les réseaux sociaux que votre camping il est hyper bruyant, que vous respectez pas votre clientèle en faisant passer la tondeuse et le tailleur. Et combien de temps ça va durer? Il m'a dit ça va durer tout l'après-midi parce que nous, vous comprenez, on travaille, on a du boulot. Alors j'ai dit, je m'en vais et vous me remboursez mon séjour. C'était 3 jours.
Et qui coûtait combien alors? Dites-moi.
244 euros. Pour 3 jours.
244 euros pour 3 jours.
Ouais, mais j'étais super fatiguée quand j'ai réservé. J'ai réservé 2 jours avant de partir. J'étais vraiment, j'avais besoin de ce break, quoi. J'avais vraiment besoin de souffler en dehors de la maison. Et j'ai pas fait gaffe au prix. J'ai dit bon, ok. Après, je me suis rendu compte que ça faisait 80 euros par jour et que c'est énorme, quoi.
Pour vous, c'est un budget, je suppose.
Bah ouais.
Ouais.
Mais je me faisais un cadeau, quoi.
Oui.
En plus, c'était mon anniversaire. Donc, je me suis offert un cadeau et voilà, besoin de vacances. Quoi. C'était quelque chose presque d'indispensable d'aller souffler loin de la maison, changer d'environnement. Mmh. J'avais envie d'un truc qui fasse vacances, quoi.
D'accord.
Et sur un camping, je me dis, c'est vacances, l'ambiance. C'est, même si c'est au mois de juin, voilà.
Non, mais c'est très sympa, le camping, ça peut être très sympa. Et puis, si on a envie de se reposer en même temps que de croiser d'autres personnes, c'est sûr que voilà, c'est très sympa. Moi, ouais, mes beaux-parents, vous voyez, ont un camping-car. Et je sais que c'est un moyen de voyager et puis de se regrouper comme ça. Enfin, bon, voilà, ça devient une vraie passion, ces choses-là.
Ouais,
en tout cas, le camping, vous savez qu'en Belgique, il y a des gens qui habitent toute l'année au camping. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Il y a des campings où toute l'année, il y a des gens, parce que c'est vraiment une manière de vivre, en fait.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un mode de vie. Mais je pense qu'en France aussi, ça se fait.
Oui.
Je pense aussi qu'en France...
Je ne suis pas vraiment un spécialiste, donc, parce que j'étais au camping quand j'étais adolescent, mais ça fait bien longtemps que je n'y ai pas été. Mais je me rappelle que, bon, voilà, c'était une ambiance... c'est bien, en fait, il y a du monde.
J'ai une adresse, si vous voulez aller au camping.
Très bien. Le camping, vous avez entendu les tondeuses et tout ça?
Oui. Alors, j'ai été voir le directeur,
ouais.
Et je lui ai dit, je m'en vais, vous me remboursez. Il m'a dit que c'était impossible, qu'il ne pouvait pas rembourser, et que déjà, le pauvre, avec le Covid... Alors, j'ai dit, mais le Covid, vous avez eu des aides. Je dis, on a eu des aides, au moins, le gouvernement avait dit qu'il ferait ça, et il l'a fait. Et là, il a changé de ton, il dit, ouais, heureusement qu'il y a eu les aides, bref. Donc, il me dit, allez vous promener. J'étais avec deux chiens. Il me dit, allez vous balader. Il y a une rivière au bord de la rivière. Et puis, excusez-nous. OK, je suis partie me balader. Je suis revenue. Il était presque 17 heures. Ça mm-hmm. tournait encore la machine. Mais ça fait un bruit infernal. Hein, les tailleux, là, on dirait des tronçonneuses. Comme ça tournait encore, j'ai été me balader un peu plus loin. J'étais dans un lac, autour d'un lac. Et je me suis baignée avec les chiens. C'était super. C'était génial, j'ai été nager avec eux, c'était top. Je suis rentrée au mobil-home vers 8h ou 9h. Et là où j'étais, il n'y avait pas du tout d'ombre. Absolument pas. Donc le mobil-home, il est resté toute la journée au soleil, mmh. fermé. Fait que quand je suis rentrée, c'était une fournaise. Et j'ai pas dormi sur place. Hein. Je suis repartie, comme j'habitais à presque une heure du mobil-home, enfin du camping. Je suis rentrée chez moi et j'ai dormi au frais. Et le lendemain matin, quand je suis arrivée, vers 9h, je pensais prendre un petit déj sympa dehors au camping. Et là, je me suis rendu compte que j'étais logée qu'avec des ouvriers du bâtiment, en fait. Il y avait des hommes partout autour, dans des caravanes et des mobilos, mais ils étaient en train de travailler, donc ils sciaient du fer, ça fait vachement de bruit, il y a des scies électriques.
Mais vous étiez renseigné un petit peu avant de ce camping, puisque aujourd'hui on peut se renseigner avant d'aller dans n'importe quel endroit, ou même chez le dentiste, il y a aujourd'hui un système de commentaires. Vous aviez lu tout ça avant ou
Alors, j'ai regardé leur site. C'était sympa, les photos des mobilhomes, c'était très sympa, sous des arbres, autour du lac, et voilà, j'ai pas été plus loin, parce que parfois je suis un peu sceptique sur les commentaires, donc je me suis dit, je verrai bien, c'était un peu dans l'impulsion, quoi, c'était un peu impulsif comme décision. En fait, je partais pas, je voulais aller dans le sud chez des amis, et puis j'avais annulé, et puis j'avais d'autres projets, je les annulais. Et dans mon entourage, les gens me poussaient un peu, me disant « vas-y, pars, vas-y, prends des vacances ». Et toute contente, je leur dis « j'ai trouvé un truc,
au bout du compte, Christine, ça s'est mal passé.
Ça s'est mal passé parce que j'ai été logée, c'était un chantier. En fait.
Oui, j'ai bien entendu. Ouais, c'est tout à fait gênant comme situation. Mais depuis, parce que vous m'avez dit, vous aviez beaucoup de mal à vous en remettre.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? C'est le fait de qu'on ne veuille pas vous rembourser, que ce...
Alors, le fait qu'il ne veuille pas me rembourser, c'est dommage. Il m'a fait quand même un avoir. Je suis partie le lendemain, hein, quand il y avait les bruits de ferraille et tout. Je me dis, mais c'est pas possible. Il y a aussi l'impression que j'ai la sensation d'avoir été arnaquée. C'est relativement désagréable. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a mis un coup au moral comme ça. Je ne sais pas. J'en sais rien, quoi. J'en parle, mais très peu. J'ose même pas en parler, de dire mes vacances, en fait. J'y suis restée un après-midi et le lendemain matin, je suis partie. Donc, j'ai pas eu de jour de vacances. Bon, ça, c'est pas très grave, mais c'est que au lieu de me rebooster, ça m'a achevé, quoi.
Ça vous a remué, oui. J'entends que ça vous a sacrément remué.
Ouais.
Christine. Est-ce que il faut remettre les choses à leur place, vous voyez, en fait, il faut que vous preniez un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé, parce que j'entends, hein, que c'est très désagréable ce qui vous est arrivé, mais bon, il faut que vous pensiez à vous un peu là dans cette situation.
Ouais. Et c'est pas un truc énorme, c'est simple.
Voilà.
C'est pas un incident énorme. Je conçois, et je me dis, ben, je sais pas, peut-être que je suis fragile, ou j'étais dans une situation.
Oui, je pense que vous devez essayer de d'analyser un petit peu ce qui se passe pour vous là sur une situation finalement que vous n'avez pas vu venir, et puis voir un peu comme ça vous ébranle. Ça laisse apparaître quand même que voilà, il y a une fragilité là, hein. Il y a sûrement, alors, une fragilité, entendez-moi bien, hein. En ce moment, on a été depuis un an sans voir personne, on a été enfermé, on voit là, j'évoquais la fête de la musique avant, avant de vous prendre, on voit que les gens ont envie de bouger, ont envie de croiser des regards, ont envie de, et il y a une certaine fragilité qui s'est installée sans qu'on l'aperçoive vraiment, vous voyez ?
Absolument, je suis complètement d'accord.
Et donc,
c'est insidieux comme...
Voilà, et donc en remettant les choses à leur place, je pense que vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il faut vite réorganiser un petit séjour comme ça, bien vous renseigner avant, peut-être jouer l'assurance et aller dans un endroit que des amis vont vous proposer, hein, des gens qui auront fait l'expérience, pour être sûr de vivre ces 2-3 jours bien comme il faut, et puis passer à autre chose, je pense, parce que de toute façon, l'avoir, ça veut dire que l'avoir, il vous attend une prochaine fois dans son camping, c'est ça ?
Ouais, donc j'y retournerai
bon,
pas.
Vous savez que vous n'y retournerez pas.
Je me suis fait abuser. Il a abusé, quoi, de me le mettre sur un chantier. Mmh. Et au départ, quand j'ai réservé, il aurait très bien pu me dire, ben, j'ai pas de place. C'était pas impératif pour moi d'aller dans ce camping-là. Vous voyez, n'importe qui aurait dit, ben non, en ce moment, je peux pas vous recevoir, ou je prends pas de clientèle. Et je me dis que c'est de l'arnaque, il est malhonnête, et c'est ça que je supporte mal. Je trouve ça injuste. Je comprends pas comment on peut être malhonnête comme ça.
Mais il y a des gens malhonnêtes. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous ne débarquez pas. Vous savez que ça existe, ça, hein ?
Ouais, non, mais c'est vrai. Je sais que ça existe, mais
c'est jamais agréable. Hein. J'entends complètement que ce qui vous est arrivé est très désagréable, mais je pense qu'il faut. Là, dans le moment que vous vivez, il faut que vous fassiez attention à ce que ça vous emmène pas sur un autre terrain, vous voyez ?
Ouais.
Et puis remettre les choses à leur place et vous dire que bon, c'est désagréable, mais finalement c'est pas grave. Hein ? Ça n'est jamais agréable de perdre 280 €, 300 €, en tout cas de se faire arnaquer, que ça soit de 10 €. Mais remettez les choses à leur place, et puis moi je vous conseille de repartir vite fait. Vous pouvez repartir un moment ?
Non, je vais commencer à travailler là. Je travaille beaucoup sur les saisons estivales, donc non, j'ai pas le temps. C'était justement pour prendre un peu plus de force et d'énergie, parce que j'ai senti, avant ce petit séjour-là, j'ai bien senti que je descendais un petit peu et moralement. Elle me dit, bon allez, j'allais me rebooster, ok. J'ai fait des efforts, en fait, pour partir. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il m'a fallu faire un effort pour aller en vacances. C'est complètement... Enfin, je sais pas.
Bon, mais écoutez, essayez d'attaquer le travail, là. Et puis, dès que vous avez un moment pour vraiment vous accorder un moment pour vous, faites-le. Hein. Il faut vite oublier cette mésaventure.
Oui, d'accord.
Essayez vraiment. D'accord. Parce que rester là-dessus, de toute façon, vous le savez, ça n'avancera pas. Vous avez affaire à des gens qui sont pas très honnêtes. Donc,
Je comprends pas comment on peut être malhonnête à ce point-là.
Mais oui, c'est comme ça. Vous savez, le pouvoir appartient beaucoup aux âmes pauvres. Vous voyez ? Et les âmes pauvres n'ont pas vraiment de réticence à se comporter d'une manière ou d'une autre.
Ok, ouais, je vois
vous
ce
voyez. Vous voyez ? Donc, et quand on est un peu plus riche, en conscience, en fait, on peut être heurté par ça. Mais ouais, il faut se dire qu'on en a assez de conscience pour passer au-dessus de ça aussi, au bout d'un moment. Et il faut que vous passiez au-dessus de ça.
Ouais.
D'accord.
Je suis plus grande que lui.
Bon.
Ok, merci beaucoup, Olivier.
Courage
merci,
à vous.
Ça m'a bien reboosté.
Eh bah, tant mieux.
Bonne fin d'émission à vous.
Merci beaucoup. Ah. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, Christine.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est minuit 28 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne. Comme je vous le disais, jeudi, à partir de 22h30, nous serons là. Il n'y a pas de football jeudi, donc vous aurez une libre antenne de 2h30, chers amis. En attendant, nous accueillons Jean au 39-21. Bonsoir Jean.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Jean ?
De la banlieue de Bordeaux.
D'accord. Et quel âge avez-vous ?
J'ai 22 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Jean ?
Donc, en fait, j'ai des problèmes de dépression assez importantes que je cache à tout le monde. Et en fait, c'est un poids énorme parce que j'arrive pas à me faire aider. Donc, c'est-à-dire que dès que je commence à faire des démarches pour qu'on m'aide, et bien, ça tient pas la route. Il y a toujours un moment où je vais pas bien et je refuse de l'aide. Et là, en ce moment, justement, j'essaye de demander de l'aide. Et le problème, c'est que j'essaye de contacter des psychiatres donc ils me répondent pas dans tous les cas. Et je cherche, je suis passé par un médecin, il m'a donné des antidépresseurs. Et les antidépresseurs, c'est en attendant de trouver un psychiatre, mais j'ai pas trouvé de psychiatre et ils me font pas effet. Donc ça fait un mois que je les prends. Et c'était vraiment un escroc pour moi.
Et c'est un médecin généraliste qui vous a prescrit ces antidépresseurs ?
Oui, c'est un médecin généraliste.
D'accord.
J'ai pas de médecin. J'ai regardé sur internet j'ai trouvé un médecin parce que j'ai pas de médecin généraliste. Donc, du coup, je suis au quotidien, c'est-à-dire que je suis très mal, je ressens pas d'émotion, je vis pas le moment présent, je suis toujours en stress total, et je pense toujours à ce que je vais faire dans les moindres détails, et c'est hyper, hyper dur à gérer, puis ça fait
c'est
des années que ça dure.
C'est fatigant.
Ah oui, c'est hyper fatigant, tout ce que je peux faire, c'est pas du tout un plaisir. C'est-à-dire que je peux faire à manger, j'ai plus l'envie, j'arrive plus à réfléchir, mais bon, je suis obligé de continuer à, je peux pas craquer, parce que si je craque, j'ai un loyer quand même assez élevé.
Que faites-vous dans la vie?
Donc, je suis chauffeur poids lourd.
D'accord.
Je suis chauffeur poids lourd, donc ça, c'était mon rêve depuis longtemps, et j'ai réussi à avoir ce permis-là il y a 2 ans. Et donc j'ai voulu partir déménager à Nice. Donc il y a 2 ans, je suis parti à Nice.
Ouais.
Et sans me rendre compte, j'étais pas bien. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Ça aurait pu bien se passer si j'aurais été bien psychologiquement. Mais le problème, c'est que je sais pas quel est mon mal-être. J'ai un mal-être qui me suit depuis longtemps. Je suis tout le temps en stress. Et quoi que je fasse, quoi que je vois, ça se retransforme en négatif. Du coup, bon, je suis resté 9 mois là-bas, je suis revenu sur Bordeaux. Et donc, quand je suis revenu sur Bordeaux, j'aurais pu être heureux, tout recommencer, mais j'avais encore ce poids énorme cette tristesse énorme, ce stress énorme, ces angoisses énormes. Donc, c'est-à-dire que même quand j'ai aménagé avec ma copine, ça s'est mal passé parce que j'étais très, très, très souvent mal. Et encore aujourd'hui, il y a des moments où je vais vraiment très mal. Et je ne sais pas pourquoi, il y a des moments où je vais extrêmement bien, mais alors, c'est le jour et la nuit.
Ça fait combien de temps, Jean, que vous vous sentez comme ça?
C'est de tout le temps. Je me rappelle déjà à l'école, j'avais déjà ces problèmes-là de dépression.
Et est-ce que vous l'avez caché jusqu'à aujourd'hui? Vous n'en avez vraiment jamais parlé à vos parents ou à des amis?
Si, j'ai essayé, mais c'est-à-dire qu'on reste pas trois pieds là-dessus. Et puis moi, comme au quotidien, je me sens pas bien. J'en parle pas quand je suis pas bien. Je parle vraiment. J'arrive à en parler que quand je vais bien. Et après, dès que je suis pas bien, je ferme le sujet. J'ai plus envie d'en reparler. Donc, ils sont pas vraiment au courant qu'au quotidien, je suis comme ça tout le temps.
Bon, alors, déjà, vraiment, vraiment le premier conseil que je vais vous donner, et il faut vraiment que vous m'écoutiez, c'est qu'il faut vraiment que vous en parliez à un médecin, même un médecin généraliste, mais que vous évoquiez la bipolarité, parce que vous me décrivez un état. Parfois, vous allez très mal, et puis après, vous allez très bien, et puis après, vous allez très mal. Vous savez, la bipolarité, souvent, hein, ce sont des cycles comme ça qui s'alternent entre du très bien et du très 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 bas. Et là, en fait, visiblement, personne ne vous a jamais vraiment suivi. Vous n'avez jamais vraiment été suivi sur quelques mois par un thérapeute. Vous n'avez jamais été, ou vous l'avez été une fois dans votre vie?
J'étais chez une psychologue depuis l'âge de 3 ans.
Oui.
Elle est partie à la retraite quand j'avais 9 ans. Donc c'est, ouais. C'est ensuite un psychologue remplaçant qui m'a suivi donc de mes 9 ans. Ah non, c'est plus de 9 ans, j'avais jusqu'à 14 ans. Je suis allé avec
Ouais, mais c'était sans doute compliqué de déceler une bipolarité. Alors je vais pas m'avancer sur un terrain que je ne connais pas, c'est-à-dire celui des enfants et des ados, hein, parce que on parle de la bipolarité maintenant depuis une quinzaine d'années. En tout cas, on en parle mieux. Ces états dont je vous parle, on aurait dû les remarquer autour de vos 16 ans, 17 ans. Vos parents n'ont jamais remarqué que vous alterniez ces moments-là?
Alors moi, je vois plus mon père. Je le voyais en temps, et maintenant j'ai plus trop de nouvelles. Il s'intéresse plus trop à moi. Du coup, j'ai ma mère, mais bon, ma mère est hyper hyper prenante, et je pense qu'elle a jamais trop, elle a jamais vraiment trop su. Enfin, elle voyait quand même que j'avais quelque chose qui allait pas, mais elle a jamais trop su quoi faire. Et après, je lui ai caché de plus en plus, et je lui fais croire que tout va bien. Mm-hmm. J'arrive à lui faire croire que tout va bien, même si elle a quelques doutes, mais.
Mais vous savez, ça n'est pas facile, Jean, pour n'importe qui ne peut pas se dire « tiens, ça peut être ça ». Il faut avoir été confronté à la bipolarité pour, dans un cadre médical, si on est dans un domaine professionnel lié au médical. Mais autrement, c'est compliqué hein, de déceler ça, à moins d'y avoir été confronté. Donc, vraiment, moi, je pense vraiment que la première chose qu'il faut arrêter de faire, c'est de cacher cet état. D'abord parce que ça doit être extrêmement fatigant pour vous. Et donc, si ça vous fatigue, c'est pas très bon. C'est pas très bon quand on fatigue, quand on cache, quand on lutte. Vous voyez,
c'est.
Et je pense que ça vous fait plonger encore plus. Hein.
C'est-à-dire que moi, à chaque fois, j'ai envie d'être la personne que je suis quand je suis bien.
Mais c'est pas possible, ça, Jean.
Pour lui ressembler.
Mais oui, mais c'est pas possible. C'est pas possible. D'autant plus que les moments où vous êtes bien, vous êtes peut-être même très très bien. Vous voyez, c'est aussi une particularité de la bipolarité. C'est que quand on va bien, quand on est bipolaire, on peut atteindre des états, presque des états où on sent des ailes pousser dans son dos.
Ah oui. Ah oui, c'est ça, c'est un sentiment de bien-être
qui
est
oui.
hyper fort. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que ça y est, je suis content, je me suis dit, ça y est, je suis enfin guéri. Et puis non, ça, je replonge. Et le problème, si aussi j'essaye de cacher au maximum, tout simplement, quand on va pas bien, on intéresse personne. C'est-à-dire qu'on... on a aucun intérêt pour la personne qui est en face de soi.
Oui, c'est ce que vous pensez, parce que quand on va mal, on passe notre temps à écouter notre tête qui nous raconte tout un tas de choses noires. Quand on va mal, le ciboulot travaille tout seul, vous savez, la tendance de la tête quand on va mal, c'est à se mettre en route toute seule et à nous raconter tout un tas de choses qui généralement enchaîne les situations plus noires les unes que les autres. Donc c'est la particularité d'aller quand on va mal hein, de la tête qui
oui c'est vrai j'ai remarqué qui, ça oui.
Voilà, le soir quand on se couche, le matin quand on se lève, ça s'arrête jamais. Alors que vraiment Jean, aujourd'hui il y a vraiment on connaît beaucoup mieux la bipolarité, on a tout un tas de traitements qui sont hyper bien adapté à ça et qui arrive vraiment à stabiliser toutes les personnes qui souffrent de bipolarité parce que c'est très répandu en plus. C'est un mal qu'on a découvert. Enfin, moi, j'ai le sentiment que ça fait 15 ans maintenant qu'on en parle mieux, on sait mieux, on arrive mieux à diagnostiquer les choses. Et donc, il y a quand même eu de gros progrès en termes de traitement. Donc, il faut vraiment aller voir votre médecin généraliste qui doit, lui, vous indiquer un spécialiste. Le mieux, c'est un psychiatre. Hein, demandez à votre médecin généraliste de vous recommander à l'un de ses confrères psychiatres. Parlez-lui de la discussion qu'on a eue ce soir, mais surtout parlez-lui de ses états qui alternent, parce que je doute que votre médecin généraliste ne soit pas au courant de tout ça. Mais peut-être parce que vous cachez, si vous cachez à votre médecin, il n'est pas médium, votre médecin, vous voyez, il ne peut pas deviner exactement ce dont vous souffrez.
Donc, au début, je me suis mal exprimé, c'est pas un médecin généraliste, c'est un médecin que je suis allé voir sur Internet à côté de chez moi, j'ai pas de médecin généraliste.
Oui, mais un médecin que vous êtes allé voir sur Internet, c'est un médecin généraliste. Vous savez, les médecins généralistes, c'est ceux qu'on consulte dans les cabinets. Médecin généraliste, c'est celui qu'on va voir quand on a une angine, un rhume.
D'accord, je croyais que c'était un...
Oui, vous n'avez pas de médecin traitant, me dit Florian. Vous n'avez pas de médecin traitant attitré, mais ça, c'est pas grave. Le médecin qui est à côté de chez vous peut devenir votre médecin traitant.
D'accord.
Vous voyez, vous habitez à côté de son cabinet, vous allez chez lui, vous lui dites, voilà, j'habite à côté, là, et j'ai besoin que maintenant vous soyez la référence. Vous savez, aujourd'hui, pour aller voir des spécialistes, il faut être recommandé par rapport à la Sécurité sociale. Pour justement être remboursé par la Sécurité sociale, il faut être recommandé par son médecin traitant. Donc, le médecin que vous avez vu là, il faut que vous connaissiez son nom, son adresse, et puis que sur l'ordonnance, sur l'ordonnance, il le met, votre médecin. Mais il faut que vous lui demandiez de vous diriger vers un psychiatre qui va vraiment vous aider à vous stabiliser. Parce que vous êtes jeune, Jean. Vous avez 22 ans. Il y a un traitement par rapport au mal dont vous souffrez, il faut remédier à ça. Je vous jure que en l'espace de 3 mois, vous pouvez changer le cours des choses, hein. Vraiment.
Ah oui, je demande que aller mieux, parce que jusqu'à présent j'ai fait des choses bien, même très bien. C'est-à-dire j'ai une bonne situation, j'ai un bel appartement, j'ai 2 voitures, mais je veux dire j'ai tout pour être heureux. Mais je le suis pas, et à côté de ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup n'importe quoi. C'est-à-dire que j'en suis même allé à mettre à la porte ma copine et ma fille, tellement que j'étais mal. Maintenant, je vis dans ce grand appartement tout seul, et maintenant, je m'en veux, mais énormément.
Et ça peut se rattraper, ça. Hein, il n'y a jamais de... Oui. Voilà, on peut... Quand on veut rattraper les choses, hein, quand... Je dis souvent, quoi, quand on a tort, quand on a eu tort, on peut dire j'ai eu tort. J'ai mal agi, pour réparer les choses. Hein, le premier truc à faire, c'est de reconnaître ses erreurs. Donc voilà, vous avez une petite fille avec cette compagne, donc il y a déjà un lien entre vous. Bon, si les choses, si à votre avis les choses sont rattrapables, comme j'ai cru le comprendre, puisque j'ai cru comprendre que vous vous revoyez un petit peu avec votre compagne.
Oui, on se revoit.
Bon, donc il est grand temps maintenant d'aller chez votre médecin et de vraiment lui demander un traitement, c'est un psychiatre, parce que le médecin, il y a certains médecins généralistes qui connaissent très bien la bipolarité et qui sont aptes à la soigner, il y en a d'autres qui connaissent moins, hein. Donc vous lui dites, moi je crois que je souffre de ça, parce que j'alterne les moments d'euphorie, parce que vous semblez me décrire des moments où vous vous sentez hyper bien, où vous, je suppose que dans votre camion vous êtes prêt à faire 48 heures sans dormir, bon... ça ressemble quand même à tout ça, parce que les downs dont vous me parlez, ces états où vous êtes au fond du trou, vous voyez, ça y ressemble en tout cas. Et donc, on peut vraiment remédier à ça. Donc, il faut, là, vous avez la clé, il faut y aller.
D'accord, mais...
Vous le sentez, d'y aller. Vous n'avez pas besoin vous dire vous y êtes bien allé, Jean.
Mais en fait, c'est que je laisse traîner.
Ben oui, mais là, faut pas choses, laisser traîner, Jean. Faut pas laisser traîner.
Je suis motivé, de toute façon, à aller mieux, puisque je peux pas rester comme ça. Surtout que le plus dur, c'est de continuer à tenir, parce que bon, du coup, je peux pas me permettre de baisser les bras et de ne plus aller travailler, parce que là, je perds tout. En plus de ça, j'ai un nouveau permis, le CE. Donc, j'ai été présenté il y a 2 mois. J'étais pas bien, donc du coup, je l'ai loupé. Et encore aujourd'hui, pour la deuxième fois, ils m'ont représenté, alors que je connais tout par cœur. Et j'étais vraiment pas bien.
Est-ce que vous avez peur du changement, en fait ? Est-ce que vous avez peur du changement ? C'est-à-dire, éventuellement, de perdre ces états où vous êtes très bien ? Parce que c'est aussi, parfois, en tout cas, c'est ce qui freine certaines personnes à aller se soigner.
Donc... Ça dépend, parce qu'en fait, bon, j'ai mon petit environnement, c'est-à-dire la ville là où j'habite, je m'y suis vachement attaché. Donc c'est vrai que, par exemple, de partir de cette ville, ça me semblerait assez dur, parce que j'ai mes petits repères, etc. Mmh. Mais par contre, je suis prêt à passer le cap de la semi-remorque, parce que c'était mon rêve d'enfant. J'ai fait le permis C, c'était déjà hyper bien, mais mon rêve depuis tout le temps, c'était d'avoir le semi-remorque. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie. Le problème, c'est que c'est vachement dur d'apprendre quand on n'a pas le moral. J'arrive pas à réfléchir. Je n'ai pas confiance en moi. Je me vois d'un regard extérieur hyper mauvais. J'ai l'impression que tout le monde m'en veut, même quand je passe dans la rue, que je marche. J'ai l'impression que tout le monde me regarde avec un regard mauvais. Et c'est hyper dur d'apprendre et même d'aller au travail et de vivre tout simplement dans ces conditions. Même chez moi, je m'y sens pas tout le temps bien. Y a des moments, même regarder un truc à la télé, ça va avoir aucun intérêt pour moi. Plus rien va avoir d'intérêt.
Mais en tout cas,
d'apprendre comme ça, c'est dur.
En tout cas, je pense vraiment que vous avez la solution, hein, ce soir, quoi. Parce que on reçoit tout un tas de messages avec. Des traitements, mais bon, c'est très gentil à vous d'envoyer tout ça, Fabien, Marie, Véro, mais un bon médecin va vous envoyer vers un bon spécialiste et va vraiment vous trouver le médicament adapté, parce qu'il y a plusieurs choses, plusieurs médicaments différents, mais qui sont aujourd'hui très très bien adaptés. Donc vraiment, vous avez la solution. Et vous voyez, vous me dites, là, je sors dans la rue, les gens me regardent de travers et tout ça. Ça, c'est dans votre tête, hein. Je vous jure.
Oui.
Qu'on peut très bien sortir dans la rue et considérer que personne ne nous regarde mauvais ou... Vous voyez, c'est vraiment de la parano. Et ça, c'est quand vous allez mal que vous pensez ça.
Oui, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment de la parano.
Mais oui, mais il faut... Vraiment, vous avez... Je vous jure, hein, Jean, j'aimerais bien que quand vous serez allé à ces rendez-vous, que vous me rappeliez, et qu'on en parle dans 3 ou 4 mois, on peut en parler et je pense que vous pourrez me rappeler en me disant que tout va mieux. Parce que vous allez stabiliser complètement ces états-là. Complètement.
Ah oui, et puis j'ai vraiment envie d'aller mieux. C'est hyper fatigant d'être...
Mais là, il ne faut pas laisser tomber, hein, Jean, maintenant que vous avez... le début d'une solution, parce que vous me disiez tout à l'heure, je commence un truc et tout, et puis après je laisse tomber. Il faut vraiment, dès demain, vraiment vous y mettre. C'est-à-dire vraiment aller voir votre médecin, en tout cas prendre rendez-vous. Il va peut-être pas vous prendre demain, parce que les médecins en ce moment sont débordés, mais en tout cas, faut vraiment enclencher cette première étape-là, d'aller voir votre médecin, et puis de lui raconter ce que vous m'avez raconté ce soir.
D'accord, mais hein? je suis vraiment motivé à aller mieux maintenant que j'ai
mais vous allez aller mieux, hein. Vous allez aller mieux, Jean. Je vous jure que vous allez aller mieux.
Je demande qu'à ça, je demande vraiment que aller mieux. C'est vraiment tout ce que je demande.
Eh ben, c'est dans vos mains. C'est dans vos mains, mon ami. D'accord?
Mais c'est super. Mais je vais vraiment faire ça au plus vite parce que je savais pas trop vers quoi m'orienter. Et c'est la première chose que je vais faire. Et après, une fois que j'irai mieux, je pourrai m'occuper
de tous
mes papiers.
Je vais vous dire un truc.
Vie, de tous mes trucs.
Jean, on a le droit de pas aller bien. Hein. On a le droit d'être down, d'être au fond du trou. On a le droit. Hein, si c'est comme ça que notre destin est momentanément. On a le droit. Là, ce soir, en fait, vous avez décidé de nous appeler. Et puis, on a parlé de ce qui est, à mon avis, votre mal. C'est vous souffrez sans doute d'une bipolarité qui n'est pas visiblement non plus super importante, mais en tout cas, suffisamment là pour vous tordre un peu votre vie et faire que vous vous sentez mal. Mais je vous certifie que tout est adapté pour que vous stabilisiez, que vous soyez mieux dans... Allez, en 2 mois, 3 mois, et que après vous fassiez tout ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire de rétablir ce lien avec votre compagne, il y a cette petite fille, tout va s'enchaîner. Ok.
Ça va être super parce que quand des fois je goûte au bonheur, c'est génial en fait la vie.
Bah ouais. Tu me fais pas dire.
Donc tout, il y a beaucoup de moments vraiment géniaux que j'ai pu rater. Et j'espère vraiment que je pourrai rattraper le
mais vous avez 22 ans, vous avez 22 ans. Jean, vous avez 22 ans, donc vous avez toute la vie pour rattraper. Voilà, c'est toujours rattrapable. Le tout, c'est de le vouloir. La première étape, c'est de le vouloir. Donc, vous savez ce qu'il y a à faire. Donc là, il n'y a plus qu'à, maintenant.
Et à 22 ans, la vie est devant vous.
Et bah super. Et puis vous savez
donc
qu'on est là.
Le fait d'avoir partagé un peu mon histoire, même si j'ai dit vraiment qu'une partie. Et puis c'est vraiment pour moi c'est exceptionnel de pouvoir me confier à vous. Et je me sens beaucoup moins seul. Je me sens accompagné. Et c'est vraiment hyper important. C'est exactement ce que je recherchais.
Et puis vous allez vous sentir encore plus accompagné parce que Paul Martin, qui vient nous appeler au 3921, vous conseille d'aller à l'hôpital de jour de Bordeaux, où vous allez être pris en charge tout de suite si vous parlez de ces états et de bipolarité, en tout cas que vous pensez que vous êtes un peu bipolaire. Il y a des gens qui vont vous écouter et qui vont vous aiguiller. Donc l'hôpital de jour de Bordeaux, comme vous êtes à Bordeaux, ben, ça tombe bien. Hein ?
Hôpital de jour de Bordeaux,
ouais.
D'accord, je vais noter. Seulement, bon, moi, je peux y aller que
vous y allez quand vous pouvez. Vous y allez quand vous pouvez.
Que, voilà. Mais après, c'est sûr que même si j'ai besoin de plusieurs jours d'hospitalisation, si vraiment il y a besoin...
Non, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas être hospitalisé. Allez-y, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Vous allez simplement avoir une, deux consultations, peut-être trois au plus, et on va vous diagnostiquer quelque chose et vous donner de quoi stabiliser tout ça. Et généralement, ça met 2 à 3 mois à vraiment être stabilisé, le temps qu'on trouve le bon dosage par rapport à l'importance de votre maladie. Mais c'est rien, la bipolarité aujourd'hui, c'est un mal répandu, mais qu'on soigne bien, qu'on stabilise bien, on peut vivre toute sa vie avec ça. Il faut se soigner, juste, et savoir qu'on a besoin d'être stabilisé. C'est tout. Une fois qu'on a compris ça, eh bien, ça roule. D'accord ?
D'accord.
Je vous souhaite une bonne soirée, mon cher Jean. Et puis, n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord ?
C'est très gentil à vous. Merci à vous et toute votre équipe. Vous étiez super.
Bah, je vous en prie.
Merci.
Bon courage et bon vent, mon cher Jean.
Merci. Au revoir.
Salut.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Tiens, puis puisqu'on parle de Jean, on va en profiter pour embrasser notre Jean de la semaine dernière, le papa de Malvina. Vous rappelez Jean qui a, le 2 mai dernier ou le 4 mai dernier, fait la connaissance de sa fille et de sa petite-fille, Malvina, donc, et de sa petite-fille. Donc, Jean, je sais que vous nous écoutez. N'oubliez pas que vous savez qu'on est là, vous savez que Malvina est là avec votre petite fille, que tout le monde vous attend, Jean, et que parfois, on en parlait tout de suite avec l'autre Jean, on peut avoir des coups de mou, on a le droit aussi d'avoir des coups de mou. Et puis, après le coup de mou, vous savez que vient souvent la lumière, la joie. Il vaut mieux penser comme ça, Jean, d'accord ? On vous embrasse en tout cas. Pour finir cette émission, nous accueillons Alexandre. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Olivier, je suis ravi de vous entendre.
Eh ben moi aussi. Comment allez-vous ?
Parce que vous êtes quelqu'un de bien et puis voilà, ça
bon,
me fait plaisir.
Merci beaucoup.
Et non, bah moi c'était juste un peu pour parler. Je suis bien content que le virus soit un peu terminé là. Enfin, je sais plus où on en est en ce moment, mais masque, pas masque. Enfin voilà, ça me fait plaisir.
Bon.
Parce que bon, voilà, donc. À part ça.
Qu'est-ce qui vous a amené, Alexandre ?
Oh, moi, c'est des petits soucis. J'ai été très touché par le témoignage d'avant que j'ai bien écouté.
Mm-hmm.
Mais je ne vais pas vous prendre la tête avec tout ça.
Non, mais vous ne me prenez pas la tête. Je suis un peu là pour
non,
ça.
Non, je sais bien. Je sais bien. Vous êtes là pour ça aussi. Hein. Mais non, mais. Ce qui m'amène, en fait, c'était des problèmes familiaux. Mais,
bah, allez-y, dites-moi.
Rien. Pardon ?
Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ?
Ouais, bah, c'est des problèmes avec mon père. Je voulais quelques conseils pour le calmer. Je ne sais plus comment faire.
Qu'est-ce qui se passe avec votre père ? Dites-moi.
Bah, ça a été beaucoup de violence. Ça a été un divorce. Ça a été des réconciliations. Et puis,
mais avec votre maman, le divorce ou...
Bah, ouais.
D'accord.
Ouais.
Et beaucoup de violence, c'est-à-dire ? Vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre mère ?
Des injures, enfin des petits coups. Hein.
Mais à votre rencontre, à votre rencontre
non, c'est-à-dire qu'il est un peu narcissique quand même. Mais bon, depuis le divorce de mes parents, ça s'est calmé. Du coup, même avec ma mère, c'était compliqué. Moi, je suis un vieux garçon. Moi, j'ai 37 ans, s'il vous plaît.
D'accord.
Mais depuis qu'ils ont divorcé, ça s'est calmé.
Mmh.
Et puis, bon, après, c'est pour ça que je vous dis, j'étais très touché par le témoignage d'avant, parce que moi aussi, j'ai des problèmes psychiques. Mes parents m'ont un peu jamais compris. Et puis, du coup, depuis qu'ils sont divorcés, ça va mieux. Comment vous l'expliquez, ça, Olivier ?
Mais peut-être que ça vous rassure de savoir que votre mère, tout simplement, n'est plus proche de votre père que vous décrivez comme violent, déjà. Donc, mon avis, ça doit vous rassurer de savoir qu'elle est au calme, votre maman.
Calme, ouais, mais... En plus, il y a des pépins de santé et tout, mais enfin, c'est pas qu'elle me calme, c'est que ça va mieux entre ma mère et mon père.
Mm-hmm.
Et puis, enfin, vous en faites pas.
Mais est-ce que ça ne vous inquiète pas, tout ça ? Parce que ça a l'air de vous tourmenter un peu, quand même, Alexandre.
Ça me tourmente beaucoup.
Bon, voilà. Qu'est-ce qui vous tourmente, exactement ?
Que vos
parents aient divorcé ?
Avec des gens qui m'entourent.
Ne pas pouvoir parler avec les gens qui vous entourent ?
Oui.
Et pourquoi ça ? Vous êtes timide ?
Non, je ne suis pas timide, loin de là. Mais ils mettent toujours des contradictions à tout ce que je peux dire, en fait.
Ah bon ?
Et puis, oui.
Et pourquoi ça, à votre avis ?
Bah, je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai des petits problèmes. C'est pour ça que j'étais très touché par le témoignage du jeune homme. Je ne sais plus comment il s'appelle, enfin le monsieur, avant. Mais je sais qu'il y a des gens qui manquent de tolérance. Et mes parents font partie, je trouve.
D'accord, vos parents. Donc, vous êtes un peu en, vous êtes un peu en conflit avec vos parents.
Non, depuis qu'ils ont divorcé, ça va mieux, si vous voulez, en fait. Mais... Je pense que c'est un amour qui était correct, mais qui s'est brisé. Et puis du coup, il y a des choses qui se sont arrangées derrière, et moi, ça me choque un peu, quoi, parce que du coup.
Est-ce que vous avez longtemps eu peur que, quand vous étiez enfant, par exemple, Alexandre, est-ce que vous avez eu peur que vos parents se séparent ?
Enfant, non, j'ai jamais eu peur.
Non.
Mes parents, ils s'entendaient toujours très bien. On avait plutôt une belle vie. Et puis, ça s'est vite compliqué, quoi. Par contre, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup d'injures. Et puis, à un moment donné, j'étais en plein milieu. Enfin, bon.
Et ça vous a heurté?
Oui.
Tout ça?
Oui, ouais. Certainement, oui. Ouais, ouais.
Est-ce que ça vous a fragilisé, à votre avis?
C'est possible.
C'est fort possible, même.
Ouais. Beaucoup des grosses disputes, beaucoup de mépris, beaucoup d'injures.
Et beaucoup de mépris de la part de votre père vis-à-vis de votre mère ou...
Les deux. Ma mère était pas mal non plus, quoi, si vous
D'accord.
voulez.
Ouais. Vous êtes sans doute quelqu'un en plus d'assez sensible, je l'entends, donc vous n'aimez
ouais,
pas le conflit.
Très sensible. J'ai une sœur, j'ai un frère, enfin bon, ça c'est autre chose, mais ma sœur me dit que je suis sensible, parce qu'elle est éloignée de tout ça, de toute façon, depuis, dès qu'elle a eu 20, 21, une vingtaine d'années, elle s'est éloignée de tout ça, parce que c'est déjà un problème. On commence à sentir un peu d'électricité, quoi, un peu de... Et puis, moi, je suis resté longtemps avec mes parents seul. Voilà.
Vous êtes le petit dernier ?
Du coup, il y a eu beaucoup de conflits entre-temps.
Vous êtes le petit dernier ?
Oui.
Uh-huh.
Oui, j'ai un demi-frère aussi.
D'accord.
Mais enfin, lui, bon, voilà.
Bon, il ne faut pas trop vous inquiéter, hein ?
Non, je ne m'inquiète pas de problème.
Il faut simplement vous dire qu'à 37 ans, là, maintenant,
ouais, bah oui,
il faut que vous taillez votre route à vous et puis que vous vous préoccupiez plus de vous que
mais
de vos parents.
Je la taille.
Très bien. Bah, écoutez, essayez quand même de rester là-dessus. Pensez bien
positif,
à vous. Mais de bien penser à vous.
C'est-à-dire
d'abord de votre situation à vous et d'être sûr de ce que vous voulez faire et de vous renforcer à ce niveau-là.
D'accord.
Et ne vous préoccupez pas trop des autres. Ils sont assez grands pour régler leurs problèmes. D'accord ?
Ben, merci beaucoup, Olivier.
Je vous embrasse, Alexandre. À bientôt.
Merci, moi aussi, je vous embrasse.
Au revoir.
À bientôt. Peut-être.
Chers amis, c'est la fin de cette courte libre antenne. Comme je vous l'ai dit, je vous le rappelle, jeudi, nous nous retrouverons à 22h30. Comme ça, nous aurons tout loisir de passer du temps ensemble. En attendant, vous le savez, ici, on fera toujours attention à vous, 7 jours sur 7, la libre antenne d'Europe 1. Donc, pour ce soir, eh bien, essayez de bien dormir, respirez bien, inspirez bien, expirez bien. Et puis, surtout, faites de beaux rêves. On se retrouve demain à 23h30. Salut !